Jean-Marc Jeansannat, monsieur le maire et monsieur le vice-président du Grand Narbonne, puisqu'on va entamer également cette fonction dans cette deuxième partie. Lorsque donc vous avez élu, c'est un peu la règle, hein, il faut d'abord être élu municipal avant d'être élu communautaire, et qu'on vous a proposé une vice-présidence dans la gouvernance de Didier Mouly, est-ce que c'est vous qui avez choisi cette fonction, celle-ci ?
Oui, il m'a demandé, j'ai dit que j'avais un goût pour les mobilités, que je souhaitais que ce soit aussi les transports et les mobilités et l'intermodalité, il y a trois termes qui sont assez différents. Parce que les transports, c'est essentiellement le DSP, délégation de services publics, avec l'entreprise Keolis, mais il y a aussi tout le volet des mobilités actuelles et futures à développer, et aussi l'intermodalité.
Oui. Alors, les mobilités, c'est devenu un mot à la mode, c'est un petit peu du langage macronien récent. Qu'est-ce que ça recouvre en plus par... Jadis, on disait les transports, c'est-à-dire sous-entendu tous les modes de transport.
Oui, c'est vrai. Mais on se rend compte quand on en est privé que les mobilités, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, même si forcément on est attaché à son logement et à son cadre de vie. On a quand même envie d'aller au-delà du 1 km ou du 10 km qui nous ont été imposés ces derniers temps. Donc les mobilités, c'est toutes les manières de se mouvoir, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le loisir, le tourisme aussi. Il faut savoir donc que dans le département, 80% des trajets travail, domicile se font avec une voiture personnelle et qui font moins de 5 km. Donc c'est pour ça que cet usage, ce flux routier, il faut qu'il soit repensé pour le futur. Les contraintes environnementales, les contraintes sanitaires font qu'il faut envisager d'autres moyens de se mouvoir. Voilà, c'est pour ça que les mobilités du futur vont évoluer.
Oui, mais alors la route reste quelque chose aujourd'hui, vous l'avez souligné, de primordial.
Mais oui.
On n'y échappe pas.
Surtout quand elle est encombrée.
Quand elle est encombrée. Alors, j'y arrive tout de suite, monsieur le vice-président du Grand Narbonne et maire de Montredon, c'est pas un hasard. Vous avez sur votre commune la polyclinique Le Languedoc qui va déménager, qui est installée dans quelques semaines, qui va être opérationnelle. Ça va faire un gros pôle de santé sur votre commune. Ça va emmener, évidemment, en plus de tout le personnel de la poly actuelle, des patients venus du Narbonnais et probablement d'au-delà de l'Est audois, et même peut-être plus loin. Mais la route actuelle est déjà fort encombrée. Qu'est-ce que ça va donner par la suite, Jean-Marc Jeansannat ? C'est un petit peu catastrophique, ce qui s'annonce.
Oui, alors c'est vrai que le constat, c'est que du rond-point de Montredon à Lézignan, il y a 24 000 voitures, dont 2 000 poids lourds, qui passent tous les jours. Ici. Donc c'est quand même considérable. On sait qu'à l'ouverture donc de l'hôpital privé du Grand Narbonne, qu'on appelle HPGN, il va y avoir donc peut-être 30-35 000 véhicules le jour. Donc tout ça, effectivement, c'est une problématique et les infrastructures n'ont pas, dans les programmes,
été calibrées. Jusqu'ici, j'ai posé la question au président de l'agglo actuel et à la présidente du département. Jusqu'ici, rien n'est envisagé, semble-t-il.
Alors, il y a des projets.
Enfin, des projets, oui, mais rien n'est commencé.
Non, et voilà, rien n'est entamé, ça c'est sûr. On a eu une réunion avec l'autoroute pour voir donc s'il pouvait y avoir une sortie, un échangeur à Bizanette qui permettrait d'arriver directement à cet endroit-là par ce biais-là. Mais ça reste quand même une arrivée sur le rond-point. Et donc,
de toute façon, oui.
Quoi qu'il en soit, le tronçon du rond-point jusqu'à HPGN, jusqu'au rond-point d'HPGN, sera quand même fatalement très encombré. Il y a des pics. Alors c'est vrai qu'il y a des moments dans la journée où on circule très très bien. On met quelques minutes pour arriver à Narbonne.
Oui,
et il y en a d'autres.
Comme tous les embouteillages, ils sont à certaines heures.
Voilà. Alors c'est vrai que quand on est coincé dans une ambulance et qu'on est au mauvais moment... à la mauvaise heure, ça peut poser des problèmes, effectivement.
Oui, oui, oui. Donc, il faut vous attendre à ce que certains vous reprochent certaines choses dont vous n'êtes pas a priori responsable.
Oui, c'est un peu comme pour la gestion communale, c'est un peu pareil. Quand on hérite d'une situation, on prend le bon, un beau village, zone industrielle.
Ouais, on prend tout, quoi.
Voilà, c'est une zone industrielle qui est à l'initiative locale du maire de l'époque qui, dans les années 60-70, a bien compris l'intérêt d'avoir une zone en bord de national, à l'époque c'était une nationale, c'est du bon, mais il y a aussi forcément des inconvénients. auquel il faut se préparer.
Oui. Alors, revenons au transport. Alors, transport, le bon vieux mot, et notamment le service des bus.
Oui.
Jean-Marc Jansana, décrivez-nous un petit peu la situation actuelle. On a une DSP, une délégation de service public,
tout
avec l'entreprise Keolis.
Oui.
Qui fournit quel type de service?
Alors, ils fournissent donc un réseau urbain, dans la ville de Narbonne, la ville centre, avec 5 lignes, et ensuite donc 16 lignes pour l'interurbain. Donc c'est tout ce qui permet de raccorder...
Le Grand Narbonne, l'agglo, toute l'agglo.
Exactement, tout à fait. Alors, essentiellement, il y a donc pour...
Hors transport scolaire, hein, on est bien d'accord.
Alors non, les transports scolaires font partie de ces lignes. Donc c'est les collégiens et les lycéens qui sont transportés via la DSP de Keolis, mais après donc il y a aussi les offres d'été pour permettre d'aller aux plages, et il y a aussi donc des offres de gratuité notamment à l'intérieur de Narbonne, citadine 1 et citadine 2, qui permettent de déposer sa voiture sur un parking gratuit et de faire ensuite l'entrée dans la ville, le tour de ville gratuitement toutes les 10 minutes. Et de pouvoir ainsi, comme ça, ne pas avoir à payer de stationnement ou rentrer dans l'hypercentre.
Oui, des services demandés qui semblent fort bien fonctionner au demeurant.
Tout à fait. D'ailleurs, on a régulièrement des demandes d'arrêts supplémentaires, des demandes d'élargissement du parcours. Donc on sent bien que les Narbonnais sont très attachés à ce service qui est tout à fait récent. Il y a d'autres services aussi, le transport de personnes à mobilité réduite, à la demande. Voilà, c'est assez complexe.
Donc tout ça est géré par Keolis. C'est l'entreprise Keolis qui exerce tous ces activités de transport.
Voilà, et nous, en interne, nous avons un service avec 3 personnes à l'agglo. Madame Stéphanie Trani, donc, qui dirige ce service, avec un contrôleur qualité qui se déplace sur les lignes, vérifie bien la régularité des lignes, le comportement des personnes aussi. Et puis une autre personne qui travaille sur les aménagements, les arrêts de bus, les signalétiques, etc. Voilà. Donc ce n'est pas un grand service au sein de l'agglo, c'est 3 personnes, mais qui gèrent ensuite donc, une DSP avec un budget de 15 millions d'euros de fonctionnement. Il y a très peu d'investissements, puisqu'on n'a pas beaucoup d'investissements, d'aménagements, c'est uniquement du fonctionnement.
Oui. Et alors, Jean-Marc Jansana, vous avez tout à l'heure prononcé le mot à propos des citadines de gratuité. On sait qu'il y a une demande pour une gratuité complète de l'ensemble de ces services. Où en est-on ?
Alors, le président a souhaité confier donc à une assistance maîtrise d'ouvrage, une AMO, qui réfléchit à la délégation de services publics de la prochaine, le prochain contrat qui s'arrête en 2024, et a déjà demandé donc une étude pour savoir comment la gratuité pouvait être intégrée. En fait, la billettique, ça représente 1,3 million sur les 15 millions.
C'est-à-dire à peine 10% du budget.
Tout à fait.
C'est une petite partie.
Voilà, le reste...
Mais c'est une partie quand même.
Ah, c'est une partie. Donc c'est vrai qu'on peut tout à fait envisager de s'en passer, mais il faut forcément trouver l'équivalent. Alors, est-ce que ça va être une augmentation d'autres... Le budget principal de l'agglo qui viendrait abonder le budget transport? Voilà, il faudra trouver des solutions. Et ce sont des techniciens, ce n'est pas les élus qui vont guider ce choix, c'est les techniciens avec cette AMO, cette assistance maîtrise d'ouvrage, qui va pouvoir nous dire dans quelles conditions on peut y arriver.
Oui, voilà, mais personnellement, quand vous jugez justement, peut-être comparativement à d'autres villes qui se sont lancées dans cette gratuité, est-ce que vous pensez que c'est un projet qui tient la route ou qui mérite plus ample étude et information ?
Il faut l'étudier. Il n'y a pas d'a priori. Après, on peut tous avoir un avis, forcément. Il y a des gens qui sont pour. Il y a des gens qui disent que ça dénature un peu le service lorsque tout est gratuit. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ce soit étudié. Et principalement, ça va être l'aspect financier qui va guider ce choix.
Oui. Alors, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi la question, si demain c'est gratuit, est-ce que les gens vont le prendre pour autant ?
Oui, alors,
on n'a pas cette certitude.
On n'a pas de certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'un bus, c'est 40 voitures en moins. Est-ce que
oui,
40
ça,
chauffeurs...
En théorie, c'est bien, c'est
voilà,
vrai.
Pour l'environnement et pour la pollution. Est-ce que 40 chauffeurs abandonnent leur véhicule sur une aire pour tous monter dans un bus ? Ça n'est pas sûr, parce que il y a des territoires qui sont ruraux, il y a des territoires où il est plus facile souvent d'utiliser sa voiture que d'attendre un bus. Hein. Il est clair qu'en ville, quand il y a un bus toutes les 10 minutes, c'est très facile d'attendre le prochain. Si vous êtes sur une fréquence qui est un petit peu différente, ce sera plus compliqué.
Oui, voilà, il y a cette réalité-là, parce qu'on est quand même dans des zones rurales ou semi-rurales ou semi-urbaines. On n'est pas dans des grandes... On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Toulouse.
Bien sûr. Et puis la gratuité, ça veut dire peut-être aussi la plus grande fréquentation. Donc qui dit plus grande fréquentation veut dire soit un déploiement géographique de nouvelles zones qui ne sont pas encore desservies, des quartiers nouveaux, des quartiers qui émergent, ou une fréquence qui serait un petit peu densifiée.
Oui, ce qui impliquerait donc un coût supplémentaire, sur-supplémentaire.
C'est probable que l'effet, entre guillemets, pervers de la gratuité, ce serait un accroissement des dépenses.
Oui. Et alors, à propos de mobilité, quels sont les autres types sur lesquels vous travaillez, Jean-Marc Jeansannat ?
Alors, on travaille avec mon ami Jean-Marie Monnier, donc vice-président en charge de la transition énergétique, sur les bornes de recharge électrique, par exemple. C'est un sujet qui est très passionnant, parce qu'on voit bien que le marché, maintenant, est assez mature. Il y a quelques temps en arrière, il y avait une voiture électrique par gamme de constructeurs. Maintenant, tous les constructeurs se lancent là-dedans. Et moi, je partage l'idée que le Grand Narbonne devrait accompagner chaque commune à avoir au moins une borne de recharge dans sa commune pour assurer un service public. Bien sûr, les privés vont pouvoir s'emparer, ils s'emparent déjà. Les réseaux comme Ionity, Tesla, les supermarchés, les stations-service qui sont reconverties en bornes de recharge.
Mais ça, ils le feront dans des zones urbaines, et rentables.
Voilà. Et les petits villages ruraux dans le Minervois et ailleurs n'auront pas forcément un supermarché ou une station-service qui sera adaptée. Donc le Grand Narbonne pourrait au moins assurer ce service public en disant « Je garantis que dans chacune des 37 communes, je peux recharger ma voiture électrique. »
Voilà. Donc on peut penser que vous agirez pour qu'il y en ait absolument partout,
oui,
dans chacune de ces... Et vous y croyez vraiment à l'avenir, parce qu'il y a l'électrique, dont on parle beaucoup. Un peu plus loin derrière se profilerait l'hydrogène.
Oui.
Que pensez-vous de ces fameux moteurs à hydrogène ?
Alors, moi, je pense que la pile à combustible, donc c'est le fait d'alimenter une pile à combustible avec de l'hydrogène pour produire de l'électricité qui fait mouvoir le véhicule et qui rejette uniquement de l'eau, c'est tout à fait adapté à des gros moteurs. Ça sera peut-être l'énergie du futur pour remplacer le diesel sur nos bus, sur nos camions de ramassage d'ordures ménagères, sur les transports routiers. Et d'ailleurs, en ce sens, il y a deux sociétés qui se lancent dans les réseaux de distribution à Narbonne pour justement l'oxygène, et pour l'hydrogène, pardon. Et donc, il y aura plusieurs, à mon avis, dans le futur, l'électrique pour la voiture individuelle, la voiture urbaine, l'hydrogène pour les gros véhicules, peut-être même encore la subsistance de gaz ou de biocarburant, hein, puisque bon, il y a quand même des carburants qui sont issus de l'agriculture.
Bien sûr. Oui.
Il n'y aura pas, à mon avis, une seule voie, le tout électrique ou le tout hydrogène.
Voilà, voilà, c'est comme ça que le voit le vice-président chargé des mobilités au Grand Narbonne. On marque une deuxième pause, Jean-Marc Jeansannat. On se retrouve pour parler, allez, un petit peu plus de vous après cette pause.
Merci.